You're not going to participate?
No, I'm not going to waste my time on a virtual debate. That's not what debating's all about.
Donc ça, c'était le président Trump qui disait « Ah, écoutez, non, moi, j'irai pas dans un débat virtuel. Un débat, c'est pas ça. » Donc, il a envoyé le signal, il sera pas au deuxième débat.
Ben, effectivement, parce que, écoute, on n'avait même pas fini de parler du débat vice-présidentiel que Donald Trump était redevenu ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire une personne profondément incapable de ne pas être au centre de l'action, de ne pas avoir tous les projecteurs braqués sur lui. Donc, dès ce matin, après qu'on a appris que la commission sur les débats présidentiels, qui est l'organisme indépendant, là, on sait, qui organise, qui finance les débats présidentiels, donc après qu'elle a annoncé qu'on allait avoir un débat virtuel, le président s'en va à la télévision nationale américaine et déclare « Savez-vous quoi? Moi, ça me tente pas. Ciao, bye. Je serai pas de la partie. » Le petit problème, c'est que, ne serait-ce que d'un point de vue stratégique, c'est lui, Pat, qui a besoin de débattre, pas mal plus que Joe Biden. C'est lui qui tire de l'arrière. Et doit-on le rappeler, il y a à peine quelques semaines, c'était le camp Trump et non le camp Biden qui demandait à ce qu'on tienne non pas 3, mais 4, 5, 6 débats parce qu'on reconnaissait qu'on tirait de l'arrière et donc on voulait avoir d'autres occasions de reconfigurer cette course-là. Donc, s'il y a quelque chose, c'est que Donald Trump est en train de se tirer dans le pied avec ça. Maintenant, une fois que ça s'est dit, il y en a plusieurs qui ont une mémoire assez courte. Et en fait, collectivement, on a une mémoire assez courte également parce que il y a à peu près personne dans les médias américains depuis ce matin qui relate le fait qu'en 2015, pendant qu'on était dans les primaires républicaines, M. Trump avait fait exactement le même genre de sparage. Il y avait eu des débats qui étaient organisés et une semaine, deux semaines avant l'événement, il menaçait de les boycotter, voulait qu'on change le format. À un certain moment, même, avait exigé qu'on le paye 5 millions de dollars parce que, selon lui, il allait attirer des meilleures cotes d'écoute. Donc, les réseaux télévisés auraient dû le payer. Puis, au final, qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? C'était du bluff. Il a fini par y aller. Dans ce cas-ci, on ne sait pas s'il va être capable d'obtenir la concession qu'il veut, c'est-à-dire avoir, en guillemets, un vrai débat et non pas un débat virtuel. Mais, aux dernières nouvelles, s'il n'y a pas de débat, encore une fois, c'est lui, beaucoup plus que M. Biden, qui en sort perdant.
OK, parle-moi pas de la mouche, mais parle-moi du débat vice-présidentiel d'hier.
Ben, écoute, tu me dis de pas te parler de la mouche. En même temps, de quoi est-ce qu'on va vraiment se rappeler, à part de la mouche, et à part du fait que Mike Pence a continuellement défoncé, en bon français, là, la limite de temps. Parce que, tu sais, les débats présidentiels, les débats vice-présidentiels, oui, c'est une question de contenu, mais ça peut aussi être une question de contenant. Et au niveau du contenu, M. Pence a été beaucoup plus solide, je pense que c'est le moins qu'on peut se dire, la barre n'était pas très très haute que l'a été Donald Trump. En même temps, je ne sais pas à quel point il va vraiment pouvoir avoir aidé son boss dans la mesure où depuis hier, on ne parle dans les médias à peu près que de la fameuse mouche sur sa tête. Soit ça en passant, Pat, qui est resté quand même 2 minutes. Il faut le faire, là. Une mouche qui reste sur la tête de quelqu'un pendant 2 minutes de temps. Et de son attitude à la fois vis-à-vis Kamala Harris, dont Philippe parlait tantôt au début de l'heure, et vis-à-vis la modératrice aussi. Donc, écoute, une assez bonne performance dans l'ensemble de la part de M. Pence, mais de façon générale, quand même, probablement quelque chose qui va ressembler à un coup d'épée dans l'eau, là.
OK, Raph, je veux qu'on prenne du temps pour parler de ce qui s'est passé, de ce qui a été découvert au Michigan. Écoute, c'est une histoire digne d'un film. Ça aurait pu vraiment mal tourner. Le FBI qui a arrêté des miliciens d'extrême droite qui voulaient kidnapper la gouverneure de l'État.
Si les gens qui nous écoutent présentement pensent que tu as sorti ça là, d'un roman feuilleton ou d'une histoire de fiction, là, non, c'est ce qu'on a. Puis c'est assez spécial parce qu'on se parle depuis les dernières semaines au Québec là, de l'anniversaire de la crise d'octobre. Là. Ben, les Américains auraient pu l'avoir leur propre crise d'octobre. Écoute, plan mis sur pied par des membres de milices qui ont été arrêtés, on parle de 13 arrestations, et écoute là, le genre de chef d'accusation qu'on a, incité à une guerre civile, attaquer le Capitole de l'État, l'équivalent un petit peu de l'Assemblée nationale du Québec, là, au Michigan, kidnapper des élus, incluant la gouverneure. Et le Michigan, c'est pas un petit État du fin fond des États-Unis, c'est un des plus importants États, c'est juste à côté du Canada, soit dit en passant, et la gouverneure Whitmer, la gouverneure en question, est sans doute une des plus importantes vedettes montantes du Parti démocrate. Donc, d'un point de vue politique, c'est quand même assez important. Et le contexte, il faut aussi le réaliser. Tu te rappelles sans doute comme moi des images qu'on a vues au printemps dernier. Parce qu'on se parle de milices puis on se parle du Michigan, là. Les hommes armés, cagoulés, avec des armes d'assaut, qui avaient pris de front le Capitole du Michigan, qui étaient entrés à l'intérieur avec leurs armes d'assaut. C'est le même genre de monde, au même endroit, la même année, dans le même contexte. Donc, il y a encore une fois des antécédents et il y a aussi le contexte social encore beaucoup plus large que ça, qui ratisse plus large que le Michigan en tant que tel. Écoute les propos qu'a tenus un sénateur républicain aujourd'hui sur Twitter. Il est allé déclarer que notre objectif, ce n'est pas la démocratie, c'est la prospérité. Je m'excuse, là, c'est pas le genre de propos que t'entends dans un système démocratique, de un, et de deux, et ça nous permet un petit peu de boucler la boucle avec le débat d'hier. Ça, on en parle assez peu. Mais Mike Pence, comme Donald Trump, a refusé hier de s'engager à une transition pacifique du pouvoir. Mm-hmm. Fait que tu sais...
Non, ils sont en train de jeter les bases pour essayer de s'accrocher au pouvoir si le résultat ne fait pas leur affaire. Mais tu sais, ce que je retiens de l'affaire du Michigan, là, c'est que l'extrême droite aux États-Unis est extrêmement active. Ils sont en train d'essayer de voir comment ils peuvent influencer le débat. Et les signaux des politiciens ont un prix. Rappelle-toi quand Donald Trump a dit sur Twitter, quand ces gens-là s'activaient, là, allez libérer le Michigan en lettres majuscules. Il y a des gens qui prennent ça pour un signal. Là.
Et en fait, lorsque tu dis le Michigan, c'est littéralement le Michigan. C'était un des États que Donald Trump avait ciblé. Donc, tu sais, c'est difficile de ne pas faire des liens. Et d'ailleurs, l'ancien directeur adjoint du FBI est sorti à la télévision nationale cet après-midi, après qu'on ait appris toute cette histoire choc-là, pour accuser directement le président des États-Unis d'avoir incité ces gens-là à vouloir commettre ça. C'est quand même assez extraordinaire.
On va finir là-dessus, Raph. Monsieur Trump, est-ce qu'il a envoyé ses vœux à la gouverneure? Est-ce qu'il a dit à ces gens-là que c'était pas une bonne idée de kidnapper une gouverneure?
En trois mots, Pat, d'après toi.
Merci, Raph.
À demain.